C'est pas pour dire. Une émission de la compagnie La Lune Rousse, présentée par Charles Cécile.
I still have a dream.
Au 21e siècle, qu'est-ce qui pousse encore les gens à dire ou à écouter des contes, des poèmes, des épopées, des histoires de bonnes femmes? Quand les déesses s'appellent Nintendo et que Midas change votre peau, autant du storytelling et des gestes barrières, de Netflix et du binge-watching au 21e siècle, quoi. C'est pas pour dire, mais toutes ces histoires, à quoi ça sert?
Moi, je trouve que l'histoire était bien.
Moi, je trouve que l'histoire était drôle.
Moi, je trouve que l'histoire était bien.
Moi, je trouve que l'histoire, elle était mortelle. Hush, hush, hush.
Moi, je trouve que l'histoire était géniale.
Salut, c'est Charles Cécile. Il y a des contes pour enfants, mais il y a aussi des enfants qui comptent. Osez prendre la parole et apprendre à écouter, s'initier au langage symbolique du conte et aussi à la culture des autres. C'est une thématique qui est chère à la compagnie La Lune Rousse, mais aussi à notre invité du jour, Michel Lefeuvre. Michel Lefeuvre, il nous a malheureusement quittés il y a peu. Il était un des fondateurs et animateurs de la Marmite, une sorte d'institution nantaise qui pendant des années a organisé des veillées du conte, des moments conviviaux où adultes, famille, enfants venaient partager des histoires. C'est parti pour une nouvelle émission de C'est pas pour dire en hommage à Michel Lefeuvre et aussi aux enfants d'hier et d'aujourd'hui. Je passe le micro à Angèle Goduchot.
Petit chaperon rouge, veux-tu bien apporter un pot de beurre et une galette à ta grand-maman? Oui, dit le petit chaperon rouge. J'y vais. Mais fais bien attention au loup. Et puis elle partit.
Michel Lefeuvre, bonjour.
Bonjour.
Je suis cet après-midi chez toi. Parce que tu as retrouvé des archives, qu'est-ce que c'est?
Oui, ce sont donc les mémoires de l'association de conteurs Paroles de Marmite. Donc ça se traduit par des cassettes audio ou des cartes mémoire ou des mini-disques. Et il y a au moins 150 heures de mémoire, de veillée de Paroles de Marmite.
Comment ça a commencé ces veillées de Paroles de Marmite? J'étais à l'origine de...
J'ai été à l'origine sans lettres, c'est-à-dire moi j'étais animateur culturel à une association nantaise qui s'appelait l'Accord et j'aimais beaucoup les contes et j'ai eu l'idée de faire un petit festival de conteurs qui s'appelait l'Édit de Nantes. C'était pas original, mais bon, ça collait au truc. Et donc j'ai invité Manfei Aubin, Catherine Zarkat, Mimi Barthélémy, des gens que j'ai fait venir à Nantes.
C'était quand ça?
C'était en 86.
86.
Et puis Yannis Chauviré et l'autre personne, je ne sais plus, ont décidé, eux étaient conteurs déjà, de faire un stage d'initiation au conte pour les gens qui voulaient. Donc ils ont animé leur stage et à la fin du stage, ils ont décidé de se retrouver certains soirs chez un tel pour raconter entre eux. Donc ils ont aimé se rencontrer, c'était une dizaine de personnes, et puis ils se sont dit ce serait pas mal qu'on raconte pour d'autres. Et ils ont programmé des veillées. Donc pour le moment, au départ, c'était à la Manu 4. Donc c'est la manufacture à Nantes.
Ancienne manufacture des tabacs de Nantes.
Qui était devenue un centre de loisirs, bon, à côté du foyer de jeunes travailleurs. Donc ils ont organisé des veillées ouvertes au public où ils racontaient. Et puis, bon, ça s'est arrêté au bout de 2 ans et moi j'ai repris la suite et la marmite est devenue parole de marmite. Et donc là, on a décidé de veiller où une fois par mois, en fait, on incitait les gens à se réunir autour des contes. Le projet, c'était bien autour des contes, c'était pas forcément la musique, c'était pas la danse, c'était pas des pièces de théâtre, c'était pas de la poésie. C'était des gens qui avaient envie de raconter. Très vite, c'est devenu des réunions mensuelles. Une première partie de contes dits pour enfants, qu'on appelait les petites oreilles. Donc, quand on racontait pour les enfants, ou les enfants racontaient, ou les deux. Et puis, la deuxième partie était dite plutôt pour les grandes oreilles, pour adultes. Après, à la fin, on a fait des après-midi contes, donc spécialement pour enfants à 16 heures. Mais au départ, c'était le soir.
Je vois un fou perché.
J'y vais.
Dans la nuit de l'hiver, un grand homme blanc, c'était un bonhomme de neige, avec une pipe en bois. Un grand bonhomme de neige, poursuivi par le froid. Il arrive au village, voyant de la lumière. Le voilà rassuré. Dans une petite maison, il entre sans frapper. Et pour se réchauffer, s'assoit sur le poêle rouge. Et d'un coup, disparaît, ne laissant que sa pipe et son vieux chapeau.
Le principe de la marmite, c'est que lorsqu'on rentre, il y avait réellement une marmite. Et il y avait deux marmites, une grande marmite et une petite marmite. Une petite marmite pour les histoires d'enfants, une grande marmite pour l'histoire adulte. Quand on se présentait à l'accueil, la personne demandait « Est-ce que vous avez des oreilles ou est-ce que vous avez des oreilles et une langue ?» Si vous n'avez que des oreilles que vous voulez écouter, vous mettez un franc ou un euro, ça dépend des époques, mais vous payez. Si vous ne voulez pas payer, mais que vous racontez, vous mettez votre prénom soit dans la grande marmite, soit dans la petite, si vous racontez pour les enfants ou pour les adultes. Donc les gens s'inscrivaient et... voilà. Et après, la veillée commençait. Le meneur de veillée, donc c'était une personne de parole marmite, on décidait entre nous, à tour de rôle, qui allait être maître de veillée, annonçait, faut-il, bon. Et puis, dans la marmite, on touillait, et une main innocente tirait un nom, et lorsqu'on appelait Aline, c'était Aline de raconter. Donc voilà, ça se passait comme ça, si tu veux.
Il était une fois, il y a très longtemps, un fermier très très pauvre qui vivait avec sa fille. Ils étaient tellement pauvres qu'il n'avait même plus de quoi se nourrir. Un soir, le fermier se dit à lui-même « Je vais me débarrasser de ma fille. Comme ça, je pourrai mieux manger. » Il alla voir le prince et lui dit « J'ai une fille extraordinaire qui est capable de filer la paille en or. » Alors, le prince lui dit « Va vite me la chercher. » Il y alla, ramena sa fille et la laissa seule avec le prince. Le prince l'enferma dans une grande, grande pièce avec plein, plein de paille et un petit rouet. Il lui dit « Demain, si cette pièce n'est pas remplie d'or, je te couperai la tête. » Il l'enferma à clé et la fille du fermier se mit à pleurer.
Thank you.
Et donc toi, là, ces temps-ci, avec le confinement et tout ça, tu as replongé dans ces...
Alors, moi, j'aime beaucoup enregistrer. L'oralité, pour moi, est tellement importante que j'ai passé beaucoup de temps dans ma vie à enregistrer. Tout ce qui m'intéressait, j'enregistrais. Le confinement m'a permis de retrouver 150 heures d'enregistrement.
Ouais, c'est considérable.
sur ces mémoires de la marmite, si tu veux. Donc voilà, c'est comme ça que c'est.
Et tu m'as dit, dans ces moments d'écoute et de raconter, il y avait particulièrement, disons, aussi des enfants conteurs.
Alors, il y a eu, dès le début, la première partie, c'était pour enfants ou sur les enfants ou par les enfants. C'était un peu une originalité. Cette partie enfant, elle a été très appréciée parce que très vite, les veillées de parole de marmite sont devenues des rencontres familiales. Les gens venaient avec leurs enfants, soit parce qu'ils allaient, leurs enfants allaient écouter des histoires, soit parce que leur enfant allait raconter.
Et pas dans l'esprit de consommation qu'il peut y avoir quelquefois dans les spectacles.
Oui, puisqu'il y avait cette scène ouverte, qu'il y avait ce tirage au sort. Donc le tirage au sort, c'est pas facile non plus, parce qu'on peut ne pas être tiré. On préparait les compteurs de la marmite, on savait que ça allait durer une heure, donc peut-être il y aurait que 5 personnes qui raconteraient, ou 10, voilà. Donc c'est accepté de ne pas être entendu, donc on disait, mais c'est pas grave, prenez n'importe quelle personne que vous aimez à côté de vous et racontez-lui ce que vous deviez raconter à la marmite et que vous raconterez jamais. Donc il y a eu ce... Et très vite on s'est aperçu que le plaisir, en fait, enfin la marmite donnait un grand plaisir aux enfants de pouvoir raconter à des adultes. C'est-à-dire il y avait enfin un endroit où l'enfant avait autant de place que l'adulte, l'enfant avait un message à dire, alors plus ou moins bien, plus ou moins préparé.
Il était une fois un fou perché sur un arbre qui écrivait. Il y a un autre fou qui passe sous l'arbre et il regarde le fou qui écrit et puis il lui demande ce qu'il fait. Alors le fou il répond, j'écris une lettre. Après il demande à qui tu l'écris. À moi. Et qu'est-ce que tu écris? Je sais pas, je l'ai pas encore reçu.
Les conditions, c'est que c'était des contes. C'était autour des contes. Alors bon, certains mettaient des comptines. Certains pouvaient mettre une petite récitation apprise à l'école, mais qui racontait quand même une histoire. Donc il y avait quand même des choses comme ça. Mais il n'y avait pas, on ne savait ni le contenu, ni la façon dont les enfants avaient répété. On avait des enfants qui s'apercevaient qu'à l'entrée, quand on ne racontait pas, on payait. Et que c'était, par exemple, un franc. Et on a vu des enfants qui avaient payé un franc et qui se sont dit « mais moi, je pouvais raconter ». Donc, ils voulaient récupérer leur franc pour s'acheter des bonbons, ils avaient bien raison ou n'importe quoi, parce qu'ils allaient raconter. Donc, cet espace de parole, ça nous a semblé très important, parce que c'était aussi faire comprendre aux enfants qu'ils avaient des choses à dire et que les adultes allaient écouter et que les autres enfants. Et écouter, c'est ne pas forcément intervenir. C'est pas n'importe qui dit n'importe quoi, pas du tout. Ça veut dire que l'enfant qui vient, il a quand même préparé un peu ce qu'il veut dire. Ou même s'il improvise.
On est carrément dans l'éducation populaire. Là.
Si l'enfant improvise, c'est qu'il est génial. Et qu'il suffit de lui dire tel mot, et hop, il peut... Enfin, comme tous les gens qui font de l'impro. On en a vu, des enfants comme ça. Mais souvent, ils avaient préparé. C'est-à-dire, ils savaient quand même ce qu'ils voulaient raconter. Les parents étaient très émus, très contents. Et l'enfant découvre le plaisir très vite d'avoir des choses à dire, que tout le monde va écouter, et le plaisir d'être entendu. Et ça, c'est le plaisir de l'artiste. Et on a vu des cabotins incroyables, qui se font applaudir, et qui en rajoutent, et qui s'abîment.
Et du coup, qui découvrait aussi un répertoire, j'imagine.
Alors, qui découvre un répertoire de contes, et que le conte peut dire plein de choses. Donc on a vu des familles qui venaient parce que soit un de leurs enfants allait raconter, soit leurs enfants aimaient tellement entendre les autres enfants raconter. Et on a vu après, par exemple, des soirées dans des quartiers un peu périphériques, par exemple au bout du Nord ou d'Hervalière, où des familles venaient parce que c'était, par exemple, une soirée de contes maghrébins. Donc toutes les familles maghrébines allaient venir pour entendre soit leur enfant raconter, à condition que ce soit compréhensible, c'est-à-dire pour nous c'était en français, pour que les Français comprennent. S'ils voulaient raconter dans leur langue, ils pouvaient aussi, mais à condition qu'ils traduisent, que ce ne soit pas réservé simplement à leur langue. Donc on a eu toutes ces richesses de différentes langues.
Est-ce que tu veux dire que les paroles de Marmite étaient itinérantes, changeaient de quartier régulièrement ?
Alors, on changeait de quartier, oui. On pouvait se déplacer, parce que des bibliothèques nous demandaient de venir. On a raconté aussi dans des associations d'aide aux devoirs, où on nous demandait de venir raconter, soit on nous a demandé de faire des ateliers d'enfants conteurs. Donc là, on s'est placé. Et les ateliers d'enfants conteurs, c'était, de mon point de vue, c'est moi qui les animais plutôt, vous racontez très bien avec vos copains dans la cour de récréation, mais vos copains, c'est vos copains. Et votre histoire, ça serait, si elle devrait pouvoir être entendable par d'autres gens que vos copains ou vos parents. Parce que ceux-là, ils vous aiment, donc il n'y a aucun mérite à ce que votre histoire passe. Nous, ce qu'on va vous dire, c'est comment emmener l'histoire ailleurs qu'à ceux que vous aimez, ou qui vous aiment d'avance, parce que vous êtes leur enfant ou leur copain. Donc les ateliers d'enfants conteurs, c'était ça. Déjà trouver un répertoire, savoir le dire à quelqu'un d'autre, et puis toutes les ficelles de conteurs, qu'on trouve dans les stages de contes. Donc on a eu des ateliers d'enfants conteurs.
Il était une fois un roi, et ce roi avait une fille belle comme le jour et sage comme une sainte. Un jour, sa fille tomba malade. Le roi demanda à son médecin de dire comment guérir sa fille. Le médecin répondit : « Roi, votre fille guérira, mais son remède n'est pas dans ce pays. Il est loin, loin, dans le pays des pommes d'orange. Dans ce pays, il y a un beau jardin où jamais il ne neige ni ne glace. Dans ce jardin, il y a un pommier où le pommier est rempli de fleurs blanches et où 700 rossignolets chantent nuit et jour. Sur ce pommier, il y a 9 pommes d'orange, rousses comme l'air, comme l'or. »
Qu'est-ce que c'est qui te plaît dans l'oralité? Et plus généralement, on pourrait dire, là, en 2021, ça sert à quoi ça sert de raconter des histoires?
Ou dans l'écouter? Pourquoi?
Pourquoi on fait ça?
Pourquoi l'oralité? Je crois que c'est parce que j'écrivais mal. Donc, comme j'étais assez fier de moi, il fallait que je trouve où me réaliser. Et j'ai trouvé que je parlais bien. Et puis, à un moment, j'étais directeur de colonie de vacances à Noirebreuil, qui est un centre là.
Je vois très bien.
Donc, j'étais directeur là 6 ans de Noirebreuil. Et un jour, il y a des types qui se présentent. Yannick Chauviré, qui dit voilà, moi je suis conteur, puis on est des copains et on vend un spectacle de contes. Et moi, on ne m'avait jamais raconté dans mon enfance, c'était pas du tout ce monde-là. Son spectacle allait dans mon budget, je disais je risque pas grand-chose, mais j'étais assez intrigué et je trouvais ça gonflé de dire enfin on se présente comme conteur, on n'a pas d'instrument, on n'a pas de décor, on n'a pas de costume. C'est des voleurs. Ils veulent me rouler. C'est pas possible. Mais la mise n'était pas grande, donc j'accepte. Et en les écoutant, si tu veux, j'ai eu un flash, un tilt de me dire, mais c'est incroyable. Les enfants écoutent. Ils sont bouche bée devant ces gens qui n'ont que la parole et qui racontent. Et dans ma tête, ça a été, c'est ça que je devrais faire. C'est comme ça que je devrais avoir les gens. C'est ça qui est fantastique. C'est arriver simplement, avec ses mots et sa présence, et ce qu'on est, et faire voyager 50, 60, enfin des enfants, tout le monde, Et à partir de là, je me suis formé et j'ai eu envie d'être conteur. Alors, moi, je me suis aperçu très vite après, si tu veux, cette aventure, que, en fait, j'aimais beaucoup l'écoute. Et à la radio, j'ai découvert Henri Gougou, qui racontait Bruno de la Salle, et que je trouve ça encore plus fort parce que je ne voyais même pas les gens.
C'est-à-dire, parce que...
non, mais ça m'interrogeait. Déjà, j'aimais bien écouter la radio parce que dans mon enfance, il n'y avait pas de télé, il y avait tout ça. Et qu'est-ce qu'on écoutait pour se faire rêver? La radio. Donc, c'était les maîtres du mystère, c'était pour mes parents la famille du raton, enfin des vieilles choses comme ça. Et ça suffisait pour voyager, si tu veux. Donc, j'aimais beaucoup, beaucoup écouter. Et les gens de parole me fascinaient. Donc, c'est vrai que je fais plus attention encore au conteur. Et comment un conteur peut emmener. Et je dirais qu'à notre époque, l'avantage des conteurs, c'est qu'on est saturé d'images. Et qu'eux, ils sont le contraire de l'image. Même s'ils ont une image, parce que quand même, ils ont une présence. À part les compteurs de radio, mais les autres sont quand même, et encore, ils sont là sur scène, ils sont présents. Et ce spectacle vivant me semble un peu irremplaçable. Et j'ai raconté un moment dans des villages vacances, si tu veux. Et c'était une expérience intéressante parce que c'est un public très ingrat. Je veux dire, ils ont payé d'avance, donc ils s'en vont, ils sont très mal polis, ils s'en vont dès qu'ils ont envie de partir ou n'importe quoi. Je veux dire,
ils n'ont pas choisi
en plus, donc bon, c'est programmé, donc ils viennent, si tu veux. Mais cette façon-là de raconter, j'ai retrouvé ça aussi sur les marchés. C'est-à-dire, à un moment, j'avais une pancarte dans les marchés, petit compte pour gens pressés, 3 minutes. Et j'ai un copain qui a fait plus fort, il avait un sablier. Il mettait le sablier, il disait, je vous assure qu'à la fin du sablier, j'aurais fini mon histoire. Donc il avait prévu des contes qui retenaient très peu l'attention. Mais cette façon d'être sur la parole, et dans les villages vacances, ce que les gens me disaient quelquefois, et qui me plaisait, c'est qu'ils me disaient, ce que c'est reposant, ce que vous faites. Mmh. C'est reposant parce qu'il n'y a pas d'image, il n'y a pas de musique, il n'y a pas l'orchestre, il n'y a pas les paillettes, il n'y a rien, il n'y a que votre histoire. Mmh. Et c'est là que j'ai. Et que c'est pour ça qu'à notre époque, moi je trouve que saturé d'images, saturé de messages, de tout ce qu'on a dans la tête, et le conteur il fait un peu l'inverse, c'est-à-dire il se pose, il arrive, et puis il amène son histoire, son conte.
Ce serait un genre d'éloge du.
C'est l'inverse des médias.
Simple et du, voilà, c'est ça. Ouais.
Et je trouve que c'est la chance du conteur quand il l'utilise bien. Mais et c'est un vrai challenge d'arriver à être le contraire. Et que mais je trouve que les gens ont besoin de ça.
De cette tranquillité.
Cette tranquillité là, raconter en espace, à Brocéliande ou sur une plage. Quand en plus tu utilises un décor. Tu es entouré d'autres choses. Il y a quand même des choses autour de toi. Si tu fais une veillée écologique sur les arbres, il n'y a pas que toi. Il y a les arbres, il y a l'herbe, il y a tout ça. Si tu veux. Donc, c'est utiliser ça, mais quand même, c'est toi et ton histoire. Pour qu'une veillée de conte soit bien, il faut un bon public. C'est-à-dire que le public il est content d'être là. Et puis, et un bon conteur. Et s'il y a le bon public, le bon conte et le bon conteur, le moment merveilleux va arriver.
Courir, sauter, courir, courir sans jamais s'arrêter, courir, sauter, courir, sans réfléchir, sans regarder, dans la forêt.
Joie, fatigue, jeu, on a un peu peur.
Bonjour, c'est toi le loup ?
Oui.
Est-ce que tu habites dans la forêt ?
Bien sûr, c'est ma maison là-bas.
Pourquoi tu aimes le rouge, le loup ?
Parce que j'ai les yeux rouges et parce que j'adore le sang et parce que ça fait peur aux enfants.
pourquoi as-tu posé plein de questions au petit chaperon rouge?
Pour manger la grand-mère, délicieuse.
Pourquoi t'as couru si vite?
Pour arriver le premier chez la grand-mère, pour la dévorer.
Tu aimes les tapis de loup?
Non, j'aime pas tellement.
Des petits-enfants conteurs d'une école primaire de Saint-Herblain, juste à côté de Nantes, lors d'un atelier encadré par Anne-Gaëlle et Ludovic Hellet de la compagnie La Lune Rousse.
Igualito que otros tantos, de niño aprendí a sudar. No conocí las escuelas, ni supe lo que es jugar. Me sacaban de la cama por la mañana temprano y al ladito de mi papá fui creciendo en el trabajo. Con mi pura habilidad me las di de carpintero, de estucador y albañil, de gaspiter y tornero. Pucha, que sería bueno haber tenido instrucción, porque de todo elemento el hombre es un creador. Yo le levanto una casa o le construyo un camino, le pongo sabor al vino, le saco mito a la fábrica. Voy al fondo de la tierra y conquisto las alturas. Camino por las estrellas y hago surco a la espesura. Aprendí el vocabulario del amo, dueño y patrón. Me mataron tantas veces por levantarle la voz, pero del suelo me paro porque me prestan las manos, porque ahora no estoy solo, porque ahora somos tantos.
Pour rester dans la thématique des enfants conteurs, je vous propose d'écouter un extrait du document Au pays du conte, un film du CNRS sur l'ethnolinguiste et africaniste Suzli Platiel. Elle nous explique ce qui l'a amené à travailler sur le conte, à comprendre sa fonction dans les sociétés de tradition orale et aussi à intervenir dans les années 1980 dans les écoles en France pour diffuser le conte comme outil d'éducation permettant de recréer le lien social.
Et alors là, j'ai été aidé par un vieux qui m'a dit, tu sais, les contes, ça sert pas seulement à se faire plaisir à raconter des histoires, ça sert aussi à apprendre aux enfants à maîtriser la parole. Oh, comme mes recherches m'avaient permis de voir quelle était l'importance essentielle de la parole dans ces sociétés. Il était donc essentiel d'apprendre, de voir comment les enfants apprenaient à maîtriser la parole. Et voilà que j'avais une réponse. Les contes. J'avais enregistré des tas de soirées Et dans mes enregistrements, j'avais effectivement plein de gosses qui racontaient à partir de l'âge de 4 ans. Et que d'ailleurs, ça m'avait étonné de voir comme ils racontaient formidablement à partir de cet âge. Donc, j'ai repris mes contes et je les ai étudiés comme linguiste. Puisque moi, comme linguiste, je sais ce dont on a besoin pour maîtriser le langage. Comment se fait la progression d'enfant? L'enfant, c'est un adulte en puissance. Et il est respecté comme un adulte en puissance. C'est pour ça que quand il apprend le conte, etc., on ne va pas l'engueuler, on ne va pas le traiter d'imbécile, et on n'est pas dans une compétition. On a intérêt à ce que tout le monde réussisse. Il va essayer peut-être 2-3 fois, et voyant que ça ne marche pas, il va comprendre sans que personne lui dise quoi que ce soit, qu'il faut qu'il apprenne à écouter. Donc, premier apprentissage, apprentissage de l'écoute avec concentration pour essayer de retenir. Et généralement, de ce que j'ai pu observer sur 1 ou 2 saisons, c'est que généralement, il prendra au moins 2 mois avant de se lancer dans la case de la mère pour essayer de raconter. À chaque fin de séance, je leur demanderai s'ils veulent que je revienne et je leur dirai si j'ai envie de revenir. Et je vais leur raconter des contes que moi j'ai recueillis dans une population africaine et à l'occasion des contes, si ça les intéresse, je leur parlerai de ces gens-là. Les gosses ont dit d'accord, les profs ont dit d'accord, donc on a commencé. Au bout de la 6e ou 7e séance, ils m'ont dit, mais on peut vous en raconter, nous aussi, des contes, avec plaisir. Alors ce qui était bien par rapport à ça, c'est que c'était les petits étrangers qui racontaient beaucoup mieux que les Français, qui eux, parce qu'il faut voir que c'est les années 80, hein. 84, donc les contes, ils n'étaient pas à la mode à cette époque. Donc les petits Français de cette partie de la société française, des contes, ils n'en avaient jamais entendu. Donc ils ont, quand ça les a intéressés, ils sont allés tout de suite en bibliothèque pour se chercher des contes. Surtout quand leurs petits copains malgaches, africains, maghrébins avaient des contes à raconter. Alors ils ne voulaient pas être en reste. Donc ils sont allés en lire à la bibliothèque pour venir les raconter, puisque leurs parents n'étaient pas capables de leur en raconter.
C'est pas pour dire, nous sommes toujours en compagnie de Michel Lefeur.
Une expérience que j'ai aimée aussi à Parole de Marmite, c'est qu'on a osé aller raconter en hôpital psychiatrique.
Oui, tu parles de ça.
Et ça dure depuis 15 ans. Donc il y a eu d'autres conteurs, c'est-à-dire on a trouvé un centre où les gens sont soignés. Ce sont des jeunes adultes et des adolescents en difficulté.
ici dans les environs.
Oui, là, autour de Nantes. Une fois par mois, le conteur vient. Le conteur ou la conteuse, ou des fois les deux, ils sont deux. Mais tu vois, il n'y a pas d'instrument, il n'y a pas de. C'est juste le conteur qui vient, c'est programmé, c'est obligatoire. Les enfants sont obligés de venir à la séance de veillée, la veillée de compte. Et ils écoutent.
Le soir ? C'est le soir ou c'est en fait ?
C'est souvent, c'est à 18h en fin d'après-midi, c'est avant le repas. Parce que dans cet établissement, nourriture et nourriture spirituelle vont ensemble. Mmh. Et ils trouvent que donner des bonnes choses avant de manger, si le repas, si la nourriture est pas mal non plus, ça aide. Donc, mais c'est pour d'autres raisons aussi. Hein. C'est pour qu'il y ait pas de discussion.
Qu'est-ce que ça vous a, en quoi ça vous a intéressé de faire ça, de raconter
Moi, j'ai travaillé en hôpital psychiatrique.
Ouais.
J'ai une fille qui travaille en hôpital psychiatrique. Donc la psychiatrie dans la famille, ça fait partie de la famille. Donc moi ça m'a fasciné et j'avais fait une autre expérience dans un autre hôpital psychiatrique sur Nantes où avant le repas j'emmenais les enfants sur une colline, mais c'était dans le centre, c'était pas très loin. On allait saluer le soleil qui se couchait, on allait regarder le soleil qui se couchait. Et j'avais vu que les enfants et les jeunes avaient des craintes énormes, certains en disant « mais s'il ne revenait pas demain ?» Parce qu'il meurt là, il va s'en aller, la nuit va arriver. Et j'en profitais pour raconter des contes de naissance du monde. Donc c'était un moment formidable pour raconter des histoires. Donc la psychiatrie et le conte, moi je trouve que ça allait très bien ensemble. Et un jour j'ai pris très très dur dans un colloque de contes où des conteurs... disait que c'était une honte d'emmener le conte, enfin, d'utiliser le conte en pédagogie, en psychiatrie, et que le conte ne méritait pas ça, qu'on lui fasse un traitement pareil. J'ai laissé courir, parce que je n'étais pas le propos d'en discuter, mais je trouvais que le conte avait grande affaire avec la psychiatrie. Et dans cette expérience-là, depuis 10 ans, ce qui est demandé, si tu veux, c'est que le conteur arrive, il ne sait pas ce qui s'est passé avant, dans la semaine ou dans la journée, et c'est même fait en sorte qu'il ne soit pas imprégné de cette ambiance difficile et compliquée. Lui, il arrive, il est innocent, il est tout neuf, c'est le ravi. Il arrive, il dit « voilà, je vous emmène là ». Et il y a autant de soignants que de soignés, et tout le monde est dans un moment d'extase, un peu. On n'est là que pour prendre du bonheur, et c'est ça qui est demandé. Intéressant dans la marmite, c'est que les gens trouvaient que vraiment c'était un lieu où leurs enfants pouvaient dire des choses. J'ai retrouvé ça après, moi, dans les maisons de retraite, à l'inverse, ou dans les EHPAD, ou avec les personnes
en Alzheimer. Mmh.
Si on se mettait à faire une fable de La Fontaine, ça démarrait au quart de tour. Mmh. Et moi, j'ai travaillé beaucoup sur les comptines. Qu'est-ce que vous chantez, votre grand-mère, quand vous étiez enfant, toi? Et les comptines, ça te permet de... Mais tu repars, tu... Puis c'est bien, parce que ça dure longtemps. Puis tout le monde reprend en cœur. Et... Mais c'était pour Janine, pour d'autres familles, je crois que la marmite était vraiment des lieux d'expression familiale. On a vu des familles se souder, préparer autour des comptes, quoi. On a vu une famille qu'on a perdu après, mais vraiment, elle ne s'habillait pas en robe de soie, mais enfin, elle se mettait belle pour venir à la veillée de compte et écouter le papa qui racontait. Et après, les filles sont mises à raconter aussi. Et il y en avait qui faisaient des découpages pendant que leur papa racontait. Des petites filles, des confettis qui distribuaient après aux gens pour qu'ils applaudissent leur papa, enfin, ou des guirlandes. Mais il y a eu vraiment autour du conte, c'est vraiment des soirées attendues, si tu veux. Cette partie enfant.
Ce moment où toute la famille... il n'y a pas tant d'occasions que ça pour que les gens s'écoutent, en fait.
Et après...
Bon, non, ça c'est toujours Nidal.
Rikiki, petite souris, sur un joli tapis gris, grignote des spaghettis, et le gros chat assoupi a bondi sur la souris, a laissé les spaghettis. Et pauvre petite Rikiki, et vit le chat mistigri.
On voit des enfants aussi qui, au bout d'un moment, ne veulent plus raconter. Soit ils sentent bien que... par exemple, j'ai eu un enfant dans un stage d'enfant conteur, un enfant bègue, qui voulait raconter. Il a fallu lui faire admettre que tout le monde allait se foutre de lui et qu'il n'allait pas raconter. Que c'est trop difficile qu'il raconte, tu vois. Personne n'allait écouter son truc. Parce que le stage, pour moi aussi, c'était leur donner une certaine réalité. Qu'on n'est pas tous là pour les aimer et qu'on ne va pas applaudir à tout ce qu'ils vont dire. Et qu'il y a des gens qui ne sont pas là pour les applaudir et qu'il faut qu'ils aillent les chercher. Et lui, il ne pouvait pas parce qu'il bégayait tellement.
Oh, là, ça devait être parti,
donc,
là,
il a fallu qu'il accepte que quelqu'un lise son conte à côté de lui, mais lui était sur la scène à côté et il était présenté comme l'auteur et applaudi comme l'auteur et tout. Donc, ça a été un travail d'admettre, si tu veux ça. Mais c'était mieux que de les laisser raconter et qu'ils se cassent la figure au bout de quelques minutes, toi, parce que c'était inentendable, de cette façon. Donc il y a tout ça dans les enfants conteurs, il y a aussi à faire admettre que inventer n'importe quoi, c'est pas forcément bien. Et que le conte n'est pas forcément la folie. Et qu'on ne peut pas tout dire, et que ça n'a pas de sens.
Parce qu'il y avait des enfants qui...
Oui, qui se laissaient assez... Alors, parce qu'ils s'apercevaient, par exemple, dans des contes de pipi-caca, et qu'ils en rajoutaient, ils n'en sortaient pas de leur histoire, tu vois, et que tout le temps, et les cacas étaient de plus en plus gros, et sentaient tellement plus mauvais, et que ça faisait des proutes tellement forts. Mais je veux dire, bon, au bout d'un moment, tu dis, mais enfin, essaie de sortir de ça, tu vois. Donc, c'était leur dire, même s'il y a de la folie dans le conte, ou si on va ailleurs, c'est quand même construit. Et le conte, il veut dire quelque chose. C'était un peu le problème que j'ai fait en psychiatrie, et avec des gens qui disaient de bien distinguer le conte et la réalité.
Ah, j'ai vu.
Grand-père, as-tu vu ?
J'ai vu une anguille qui coiffait sa fille en haut d'un rocher.
Ah. Grand-père, vous mentez. La 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 la.
Ah, j'ai vu.
Grand-père, qu'as-tu vu?
J'ai vu une mouche qui se roulait par terre sur la boue d'un cochon.
En ouvrant
la bouche.
Qu'on peut vous mentir.
Moi, maman.
Moi.
Moi, j'ai une idée encore.
J'ai vu. Grand-père as-tu vu?
J'ai vu un gros bœuf qui dansait sur un œuf, mais sans le casser.
Grand-père vous mentez. La 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 la.
Un atelier d'expression orale avec enfants d'une école maternelle de Saint-Herblain, avec Ludovic Hellet à la contrebasse et Angel Goduchot aux inventions verbales.
Donc, les enfants conteurs, c'était leur dire aussi, par exemple, dans le conte, tout peut arriver, mais dans la vie, non. C'est aussi bien faire une distinction entre beaucoup d'enfants disent « Est-ce que c'est vrai ce que tu as dit ? Surtout si tu racontes bien, toi. » Surtout si tu racontes à la première personne, parce qu'il y a des contes qui sont faits pour être racontés à la première personne. Tu ne sais pas ce qui m'est arrivé tel jour. Hein. Donc moi, je réponds que dans le conte, c'est possible. Dans la réalité, non. J'ai mis du temps à admettre que on allait moins m'aimer si je démolissais le conte en disant que ce n'est pas vrai. Mais que je mentirais mieux que d'être un menteur. Parce qu'être un conteur et un menteur, c'est quand même pas pareil. Si tu veux. Et dire, moi, je vous raconte des choses, mais c'est pas vrai. Enfin, c'est pas vrai. C'est dans votre tête, ou c'est dans ma bouche. Mais dans la réalité, vous pouvez pas faire ça. Vous pouvez pas attaquer l'autre, vous pouvez pas faire tout ce qui se fait dans le conte. Dans le conte, profitez-en, faites ça. Et dans tout le travail en psychiatrie, c'est ça aussi qu'on fait. De dire, il y a des choses possibles et pas. Et essayer de bien distinguer la réalité et le mythe.
Et le symbolique.
Et le symbolique. Ça, oui. C'est... Alors on leur donnait des références,
ouais.
Soit des livres, soit tu devrais écouter ça. Et on avait des choses à faire écouter, si tu veux, pour qu'ils trouvent leur répertoire. Et que il y avait plein de choses qui étaient mieux que ce qu'ils avaient dans la tête à raconter. Donc là, ils y arrivaient. Quelquefois, on avait des problèmes, par exemple, à un moment, avec des enfants dans l'aide au devoir. Moi, j'avais réussi à instituer qu'une fois dans la semaine, le mercredi soir, pendant une heure, on ne faisait pas les devoirs, mais on écoutait des contes, racontés par les enfants. Et les enfants avaient le droit de raconter dans leur langue, donc à condition qu'ils puissent traduire en français. C'était faire admettre aux enfants qu'on pouvait aussi entendre d'autres langues et que voilà ce que ça fait quand on ne comprend pas une langue. Et que tous les enfants d'autres cultures, ils sont bien obligés de comprendre le français ou de deviner. et essayez de deviner, vous, ce que dit l'autre, etc., par ses mimiques, par donc, tous ces problèmes de langue, et aussi accepter de traduire. J'ai eu un enfant qui était fort désagréable, enfin qui, avec moi, il m'a causé beaucoup de problèmes. Mais c'était un bon enfant conteur, un enfant maghrébin. Et un soir, il m'a invité à une veillée chez lui du Ramadan dans sa famille. Donc j'ai mis les conditions, qu'on n'écoutait pas le match de foot et que si je venais raconter, tout le monde m'écoutait. Et sa grand-mère s'est mise à raconter après des histoires. Et je lui ai dit, tu me traduis. Parce que moi, je ne comprends rien de ce que dit ta grand-mère, mais toi, tu es le traducteur. Et il s'est pris au jeu de se mettre à traduire. Et le plaisir de traduire, de passer d'une langue à l'autre. Et de ce qu'il racontait avec ses copains en arabe d'histoires dégoûtantes, comment les traduire en français pour que ce soit aussi drôle, aussi c'est dégoûtant. Ça, ouais. Et c'est tout le pouvoir de la traduction qui est aussi passionnante. Qu'est-ce qu'on fait, nous, d'un conte africain, d'un conte maghrébin, d'un conte chinois, d'un conte... Et pourtant, on les aime et on les raconte. C'est toute la différence avec le conteur traditionnel, c'est qu'il reste dans une culture qui suppose qu'on sache la langue et qu'on ait ses références. Le conteur, pour moi, non traditionnel, c'est qu'il est capable de raconter des contes du monde entier et de faire aimer dans sa langue des contes du monde entier. Et même si le conte, il perd de sa symbolique ou de son pouvoir. Mais ce n'est plus la même chose. Je veux dire, les contes africains, pour moi, en France, ils ne sont pas faits pour notre initiation. Ils ne sont pas là pour nous amener les mêmes histoires. Ils sont là pour nous émerveiller, pour nous... Il nous donne quand même des morales. Mais tant pis si on perd toute une partie de ce conte parce qu'on n'est pas de cette culture-là. Et qu'on ne peut pas. On ne peut pas savoir ça.
One, two, three.
Je suis très fier d'avoir, même ça servira, je pense que ça servira peut-être à personne, mais d'avoir tout, pour moi c'est vraiment des richesses, ces trésors là toutes ces voix qui racontent toutes ces histoires que j'ai, et de les réécouter, tu vois, je sais même pas s'ils sont devenus ces gens, je sais même pas si, mais leurs histoires existent encore. Alors moi j'avais pas de caméscope, c'était juste le son qui m'intéressait. Alors c'est vrai qu'il manque tous les gestes et tout.
T'as encore des... Ça serait quoi tes souvenirs, tes meilleurs souvenirs? Je suis sûre que tu as encore des images dans la tête.
Ah oui, oui, parce que même si je m'intéressais au son, l'image, c'est quand même très complémentaire. Je veux dire, aller voir un conteur, c'est quand même aller le voir. C'est pas que l'écouter. C'est pas le même travail que la radio. Et oui, j'ai des images de conteur, oui, oui, bien sûr. Et je suis très... Là, j'ai été très ému.
Toi, oui, c'est ça,
très ému, parce que combien de gens sont décédés, et quand tu les réécoutes, c'est tellement vivant encore. C'est fou, c'est très fort, ça, de réécouter. C'est aussi fort que la photo, c'est moins fort que la vidéo, mais quand même. Les voix, quand je les entends, tous ces gens qui sont décédés, des fois, c'est pas facile, tu vois. Et t'es content qu'ils soient là, là dans ta cassette, si tu veux, dans ton, que toi tu les as encore.
Ça devait être un sacré truc là, parce que tu t'es réécouté les 120 heures de...
Pas tout, non. Certains, parce que c'était un catalogue que je voulais faire, de savoir sur quelle cassette il y était le truc. Donc quand je savais que c'était l'histoire, puis que j'en ai déjà 10 versions, j'avance. J'ai juste à la fin. Ou quand c'est machin et que machin il me gonfle un peu, j'avance. C'était un répertoire que je faisais, donc j'ai pas réécouté. Mais j'en réécouté une grande partie, parce que là, avec le confinement, et pour ma santé, il faut que je marche une heure. Donc, avec mon enregistreur, tous les jours, j'écoutais une heure, une cassette de paroles de marmite, ce qui me faisait une heure. Mais il y a des cassettes d'une heure et demie, hein, c'est pas mal. Donc, ça m'a obligé, mais j'étais content de réécouter beaucoup de cassettes. Là, j'ai presque fini. Enfin, j'ai envie de passer à autre chose, tu vois. J'ai plus envie de réécouter tout ça. Mais j'en suis aussi, vu mon grand âge, à dire qu'est-ce que va devenir tout ça, tu vois. Et de voir une de mes petites filles, au moins lui dire que ça existe et que c'est là. Parce que ça deviendra, je ne saurai jamais, puisque je ne serai plus là. Mais, ou des fois, de me dire, tous ces trucs-là, est-ce que, ça, plutôt que ça, il y a la déchetterie, ça ne soit pas un don à faire à la maison du compte. Parce que quand j'ai déménagé, je me suis aperçu que j'avais 1200 vinyles. 1200 vinyles. J'ai collectionné, j'adorais ça. Et j'en ai vendu 400. Et le reste, ça a été à la poubelle, tu vois.
On va dire des mensonges.
On va dire des mensonges. Rigoler. Et si ça fait de la poésie, c'est pas tant pis. Et si ça fait de la poésie, c'est pas tant pis.
On va dire des bêtises, on va dire des mensonges.
On va dire des mensonges pour rigoler. On va dire des bêtises pour rigoler. Et si ça fait de la poésie, et si ça fait de la poésie, c'est pas tant pis.
C'est pas pour dire, c'est fini pour aujourd'hui. Cette émission était faite en hommage à Michel Lefeuvre, grand amateur et promoteur du conte depuis des années, rencontré en plein confinement, et qui nous a quittés il y a quelques semaines. Pour réécouter ou télécharger cette émission, rendez-vous sur c'estpaspourdire.fr. À bientôt.
C'est pas pour dire était comme chaque mois produite et réalisée par la compagnie La Lune Rousse sur une idée de Anne-Gaëlle Goduchot et présentée par Charles Cécile.
A dream.